tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Dans Histoire de savoir, aujourd'hui, on va parler de mode. C'est avec vous, Rosie Sambois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes styliste et historienne de la mode. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est que l'ULB vous invite à sa journée de la coopération pour parler de la SAP. Alors, évidemment, on se demande, c'est quoi la SAP ?
Il faut venir.
voilà, et l'émission est finie.
L'émission est finie. Alors, la SAP, c'est un mouvement. En général, beaucoup de gens connaissent, mais connaissent surtout les dérives de ce mouvement, où on voit des personnes d'origine congolaise ou non, parce que la SAP a quand même conquis d'autres territoires, qui défilent avec des costumes parfois bariolés. Il y a un peu un côté comique. Mais la SAP, en fait, est un mouvement qui, à l'origine, n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Il y a toujours eu, effectivement, des défilés de sapeurs, mais c'était un mouvement contestataire.
Voilà, donc en fait, SAP, ça veut dire société...
Des ambianceurs et des personnes élégantes.
Et ça vient, en fait, d'Afrique, plus précisément du Congo, Congo-Brazza et Congo-RDC.
Oh oui, oui.
Voilà. Et donc, si on parle de société des ambianceurs et des personnes élégantes, donc on est vraiment dans quelque chose de la mode. C'est un courant, c'est un mouvement. Comment est-ce qu'on peut définir ? Est-ce que c'est un style de vie ? Est-ce que c'est
Je pense que c'est un style de vie. Alors, ce style de vie a varié avec l'époque, a vraiment changé. Mais je pense que les personnes qui sont réellement dans la SAP, c'est vraiment un style de vie et on peut rapprocher ça à ce qu'on a appelé en Occident le dandysme. Et je pense qu'on peut vraiment rapprocher les deux courants. C'est vraiment un état d'esprit. Je pense qu'on ne devient pas sapeur, on est sapeur. Et c'est vraiment un état d'esprit. Et d'ailleurs, les personnes justement qui ne naissent pas sapeur deviennent bien souvent des caricatures. C'est vraiment un état d'esprit.
D'accord. Et c'est un mouvement, donc vous dites que c'est un peu corrélé, ou en tout cas pareil que le dandysme au 19e siècle. Mm-hmm. Et c'est apparu au même moment ou la SAP
non, la SAP en fait est apparue au 20e siècle. Donc il y avait la colonisation. Donc les premiers sapeurs naissent en fait, c'est vraiment durant la colonisation. Donc, voilà, on sait que la Belgique a colonisé ce qui est la RDC actuelle et la France, en fait, a colonisé le Congo-Brazzaville. Et donc, les deux colonisations donc, avaient des différences forcément, vu que les Français et Belges ne sont pas les mêmes. Et il y avait des interdictions, en fait, au Congo belge, ce qu'on appelait alors le Congo belge, il y avait certaines interdictions vestimentaires. Et c'est vraiment en réaction à ces interdictions vestimentaires et à un besoin de liberté. Et aussi, vous savez, quand vous êtes contestataire et qu'il y a des répressions violentes, il y a quand même toujours un côté un petit peu, je pense, ridicule pour la personne qui oppresse, d'avoir comme motif un motif vestimentaire.
Surtout si le motif vestimentaire est celui de s'habiller comme le colon. Finalement, on reprend les codes,
voilà,
en fait.
Exactement.
Donc, c'est dès le départ, c'est contestataire.
C'est un mouvement. Dès le départ, c'est un mouvement contestataire. Et naissent aussi les premiers défilés de sapeurs qu'on peut voir encore aujourd'hui. Il y a encore des rendez-vous, des combats, entre guillemets, des rencontres. Parfois, ce n'est pas toujours dans la rue. Parfois, ça peut être un événement. Ça peut être lors d'un mariage. Donc, des sapeurs se donnent rendez-vous. On dit, voilà, tel jour, il y aura tel mariage. Et ils se font, en fait, des combats qui sont des combats un peu... comme il peut y avoir un peu des joutes dans le rap, ou des battles en danse, enfin, c'est un peu la même chose, ce sont des battles de sap. Et ça avait lieu aussi dans les boîtes de nuit à une certaine époque, etc.
Et donc, si on revient à ça, c'est à la sap, dans son essence, c'est être bien habillé. Mais habillé comment ? Donc habillé, à ce moment-là...
C'est être... c'est au-delà de, vraiment comme j'expliquais, il y a quelque chose du dandisme, mais il faut aussi savoir qu'il y a quelque chose aussi de la survie. Il faut savoir aussi que, et j'ai relié ça au dandisme, mais je peux relier ça aussi au dandisme noir américain. Il y a quelque chose de la survie, il y a quelque chose de l'identité, il y a quelque chose d'une espèce de revendication de sa fierté et de son humanité. Donc ça va, l'essence du mouvement va vraiment au-delà juste du vêtement. C'est pas juste je m'habille bien et je suis. Ça allait vraiment au-delà. Il y avait vraiment quelque chose de l'identité, de l'humanité.
C'est une façon de s'affirmer aussi, si on pense au début de la SAP, hein, donc dans, mm-hmm. au début du XXe siècle. Est-ce que c'est une façon de s'affirmer aussi face aux colons et quelque part de pouvoir garder une certaine identité africaine, enfin congolaise à l'époque, qui en fait était réprimée?
Oui, non seulement ça, mais il y avait le pied de nez, il y avait aussi quelque part une forme d'injure, mais une forme, parce que il faut aussi comprendre la culture congolaise. Dans la culture congolaise, l'injure, ce n'est pas simplement, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de gros mots. L'injure, en fait, prend plusieurs formes. Et parfois, te battre sur ton propre terrain, c'est une forme d'injure. Et là, en fait, s'habiller mieux que ce que ne ferait le colon, c'est une forme d'injure.
Et
c'est une injure publique parce qu'on appelle les gens pour qu'ils soient témoins.
Ok. Donc voilà, c'est là que ça montre aussi donc l'importance du mouvement au-delà du vêtement. Et c'est donc un mouvement, je peux l'appeler mouvement, ça ne vous dérange pas?
Non, pas du tout.
ce mouvement, bien sûr, mais que voilà, qu'on utilise un autre terme. Est-ce que la SAP se poursuit encore aujourd'hui? Après les années 20, donc on arrive avec les deux guerres mondiales, enfin la deuxième guerre mondiale. Après, c'est toute la période de décolonisation. La SAP continue à exister. Mm-hmm. Et s'affirmer, j'imagine.
La SAP continue, en fait, à exister et à s'affirmer parce qu'il y a, à ce moment-là, il y a des espèces de luttes pour le pouvoir. J'ai envie de dire des luttes de pouvoir, il y a des espèces de positionnement. On sait que la décolonisation ne s'est pas faite en un jour. On est encore dans ce qu'on appelle le post-colonialisme, etc. Il y a tous ces jeux-là et c'est une façon de réclamer le respect et de se différencier. Parce qu'il y a encore, toutes ces personnes sont nées au temps de la colonie, et il y a encore une espèce de déprogrammation mentale qui doit se faire. Donc oui, on est en joute par rapport aux anciens colons, mais on est aussi en joute par rapport aux personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir accès aux mêmes choses, que ce soit les études, que ce soit, enfin, toute une série de choses. Donc, on s'affirme. Et puis, aussi professionnellement, pour tout ce qui est musicien, etc., la SAP est aussi une manière de sortir d'un espèce de, j'ai envie de dire, d'une espèce de mauvaise image qu'a la musique. Alors, la musique est très importante en RDC. La musique est extrêmement importante, mais il y a un côté... ça paraît, comme je suis d'origine congolaise, ça paraît orgueilleux à chaque fois que je dis ça, mais il y a un côté... il faut comprendre, en fait, la vision des Congolais par rapport à l'art. Maintenant, les gens commencent un peu à entrevoir l'art comme une carrière. Toutes les carrières artistiques. Mais comme pour moi, c'est un peuple qui est extrêmement artiste, pas tous dans le même domaine, mais c'est vraiment un peuple qui a vraiment beaucoup de qualité au niveau de l'art. Donc, pour la plupart des gens et pour la plupart des parents, en fait, tu me dis que tu veux faire carrière dans quelque chose que tout le monde sait faire. Donc, en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas que c'est une carrière. En fait, tu es un fainéant parce que tu veux faire quelque chose que tout le monde sait faire, en fait. Dans une famille, on a toujours une personne qui sait chanter, on a toujours une personne qui sait dessiner. On a même la personne, quand elle ne le sait pas, on a toujours une personne qui fait des déclamations comme ça, à main. Enfin, voilà, c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose pour lequel on se fait payer. On ne fait pas une carrière. On est un voyou parce qu'on est fainéant, on ne veut pas... faire d'efforts, alors on choisit ce type de carrière-là. C'est un peu comme ça que les gens voyaient. Et pour les musiciens, embrasser, donc là je parle vraiment des tout premiers musiciens qui ont fait connaître la rumba, pour eux, se saper, c'est aussi avoir une forme de crédibilité. Et ça leur permet aussi d'aller dans tous les quartiers. Donc ça, on parle encore un petit peu avant... avant l'indépendance, parce qu'on ne pouvait pas accéder à tous les quartiers. Il y avait le quartier, des Blancs, où il fallait des passes, et il fallait aussi être habillé à l'Occident. Donc voilà, ça permettait aussi d'avoir accès à certaines choses, en fait, de s'habiller d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que les gens originaires de la RDC... plus que du Congo-Brazzaville, où en fait il n'y avait pas ces sortes de ségrégation, ont compris que pour avoir certains, entre guillemets, passe-droits, il fallait être sapé. Donc c'était vraiment une question de survie. C'était vraiment ça, c'était une question de survie et parfois de vie ou de mort. Donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus qu'un simple beau costume ou un costume, parfois pas beau, mais qui sort de l'ordinaire. Donc il y a beaucoup plus que ça.
Et c'est pour ça donc que la SAP est intimement liée en fait avec la musique. Et dans ce que j'ai lu, parce que j'ai lu pour préparer cette émission, Papa Wemba est un peu le porte-parole, enfin, finalement quelque part le roi de la SAP, par rapport dans sa musique aussi. Quoi.
Alors Papa Wemba est le roi de la SAP. En fait c'est lui qui a vraiment... porter ce mouvement. Ça aussi, c'est important de savoir qu'à l'époque, en fait, beaucoup de ces musiciens ne vivaient pas de la musique. Il y avait des producteurs, il y avait différents problèmes qui faisaient qu'ils ne touchaient pas toujours les droits de manière correcte. Et puis, il faut savoir que tous ces systèmes de droits, de producteurs, etc., c'est quelque chose qui a été amené quand même de manière assez récente. Donc, un Papa Wemba... Je veux dire, voilà, ce sont des choses qui existent peut-être sous cette forme-là en Occident depuis un certain temps, même si ça a évolué, mais c'était quelque chose quand même d'assez nouveau. Comme un pays comme le Congo, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc, les gens ne connaissaient pas, il y avait beaucoup de... Ils se sont beaucoup fait escroquer aussi. Donc, il faut le temps, en fait, d'assimiler toute une certaine série de choses pour comprendre qu'on peut vivre vraiment de la musique. Et donc, en attendant, donc, il a rencontré donc, cette personne du Congo, plusieurs personnes du Congo-Brazzaville, mais c'est surtout un homme qui s'appelait Joe Ballard, qui lui, en fait, était un sapeur, mais faisait aussi du commerce, en fait, en achetant des vêtements ici, qu'il allait revendre au Congo-Brazzaville. Et il se faisait beaucoup d'argent, en fait. Et donc, Papa Wemba a compris qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, avec la SAP, parce que lui, il avait quand même une plateforme. Cet homme était vraiment hyper connu. C'était une énorme star. On a beaucoup de mal, peut-être, à l'imaginer aujourd'hui, mais c'était vraiment une star immense. Donc, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec la SAP, et donc il a décidé de se faire de l'argent avec la SAP.
Mais avec de la musique.
Et avec, évidemment, en se servant de la plateforme qu'il avait grâce à la musique.
A Kopemba kenda kaba vakansé, Atuna kabango, Oni mwana wana ayakaka te. Jour
jura proclamación a Kinshasa, jura proclamación a Sefa, amo kili baninga moto lingana, gozali ba passage toyo kana, ango sanlei ayaka na kinyo, akuta na kana koko nanga yoyo, koko na kema. Nakoya na kinye jurango e, ndako nanga eza nango e, banyole nanga eza nango e, kamwa esika ekoti sakambanga, ezanga te, ezanga te, ezanga te. Papa Henri Coco Verrier, Petit Modero La Firenze, Zen Zebro Gabin Armanier, Sissi Selenge Petit à Confiance, Manaja Ege Balingi Alire, Charlie Mboyo Moana Bruxelles, Ize Ize Moana Paris, Tankale Tanyere. Atanele itarapu nakoya na kinyoko. Oh, Alenele Kadelina,
tankale tanyere e adanele litarapo na koyana ginyoko to na koyana ginyoko to na koyana ginyoko to na koyana ginyoko to
donc lui s'en est servi finalement quelque part il s'est servi de la SAP, parce que d'autant plus qu'il me semble que Papa Wemba vivait en France, à Paris
en
plus.
Oui, il a vécu. Enfin, il était entre la France, la Belgique et Kinshasa. C'est un peu. Il était vraiment entre ces trois destinations. Mais il faut aussi comprendre que. Bon, là, je vais presque faire la conférence, mais. Oui, il faut comprendre. Toutes ces choses. Quand vous regardez les toutes anciennes images de concerts de rumba, en fait, les rumbistes chantaient pour un public qui dansait. Les concerts étaient... Les gens étaient dansés. Il y avait des tables, mais les gens dansaient. Et puis, ils arrivent en Europe, où ils commencent à faire des salles. Et là, les gens sont assis. Et donc, il faut faire le show. Et on a à ce moment-là un chanteur qui est très connu aussi, qui s'appelle Taboulé Rochero, qui fait, il comprend qu'il doit avoir, il doit faire le show. Il s'inspire d'un côté d'Elvis et d'un autre côté de Claude François. Donc il a les Rocherettes, qui sont en fait ses danseuses, et il commence à faire le show. Il commence à porter, il portait des capes, il avait des costumes, il porte des capes un peu inspirées d'Elvis. Et donc, il commence à faire le show avec ses tenues et il fait les shows avec les danseuses. Et donc, Papa Wemba, il fait un peu un mix de tout pour pouvoir, en fait, s'introniser. Parce que Rochero ne parlait pas de SAP, ne revendiquait pas ce côté. Lui, il faisait le show, habillé d'une manière show. Mais Papa Wemba a vraiment instrumentaliser la SAP, déjà pour se différencier aussi des autres musiciens qui l'ont suivi, pour avoir aussi de la clientèle, et aussi parce que beaucoup de fans aussi faisaient des cadeaux aux chanteurs. Donc il y a des fans qui habillaient les chanteurs.
Okay.
Donc ils achetaient des vêtements pas possibles pour que le chanteur le porte le jour du concert, et donc le chanteur faisait sa promotion. Et je pense que ça, c'est pas... On connaît beaucoup les griots en Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi cette forme de tradition où on chante en fait les personnalités. Et on appelle ça les mabanga, les cailloux, en fait. Donc on lance... c'est une expression pour dire qu'on lance un caillou à une personne pour la faire remarquer, en fait. Et donc, et ça reste. Hein. Quand on écoute les chansons congolaises, il y a toujours un moment où on cite une personne... Et on la complimente. Donc, il y a toujours ce moment. Et donc, voilà, habiller aussi le chanteur, lui faire des cadeaux, c'était une façon de s'assurer qu'à un moment, soit carrément, il va faire une chanson. Quand on est vraiment un fan assidu, il pouvait faire une chanson. Il pouvait dire, en plus de manière très poétique, et qui allait être chantée et reprise par beaucoup de personnes. Il y a des gens aussi qui ont commencé à se servir de ça pour le commerce. Donc, en fait, l'espèce de marketing de mode et de marque qu'on voit maintenant un peu partout, où il y a des collaborations avec les chanteurs, ben, ils ont mis tout ça en place des décennies avant, mais sans toutefois toujours faire le contrat, en fait, j'ai envie de dire, avec les marques. Ou avec les personnes, même si les personnes payaient d'une certaine manière, mais voilà.
Ok.
Vous saurez tout de la culture congolaise.
Oui, alors là, ça y est.
Musicale et SAP.
Mais c'est super intéressant. D'autant plus que, en fait, la SAP, elle va bouger. Elle va pas rester au Congo avec la diaspora africaine. On va retrouver africaine congolaise. On va retrouver la SAP, par exemple, justement à Paris, à Bruxelles. C'est quelque chose qui va arriver aussi et dans les autres pays africains.
Elle va bouger parce que la musique congolaise à ce moment-là.
À ce moment-là, on est.
On est à partir des années 80,
okay.
Même les années 70, 60-70 quand même, la musique congolaise déboule vraiment comme un gros char. En fait, il y a eu toutes les indépendances. Et il faut savoir qu'il y a eu une chanson donc, qui a accompagné l'indépendance congolaise, Indépendance Tcha-Tcha, qui a été reprise par pas mal de pays pour accompagner aussi leur indépendance, ce qui a fait quand même aussi bouger ce rythme et apprécier aussi la rumba. Donc il y avait beaucoup de chanteurs congolais qui faisaient donc des concerts dans d'autres pays, mais il faut savoir aussi qu'il y avait pas mal d'autres chanteurs qui venaient à Kinshasa pour apprendre la musique. Ils étaient déjà musiciens. Par exemple, Manu Dibangu a passé un certain temps à Kinshasa, mais il n'est pas le seul. Mais mm-hmm. beaucoup de chanteurs venaient à Kinshasa pour apprendre en fait une certaine manière de faire la musique.
Excellent. Et puis, en fait, donc...
Je ne suis pas musicologue, hein, mais c'est juste par rapport à la SAP aussi.
Oui, la SAP aussi. Oui. Et donc, on la retrouve... Il y a aussi ce contraste. C'est que finalement, on a l'impression qu'il y a aussi un certain exode de la SAP en dehors du Congo, puisqu'à un moment, le Congo va s'appeler le Zaïre, oui. sous Mobutu. Voilà. Oui. Mobutu, lui, veut un retour à... Je ne sais pas si je m'exprime correctement. À l'authenticité africaine. Mm-hmm. Il va changer les prénoms. Enfin, et donc aussi dans les vêtements... Il va interdire le costume mm-hmm. occidental, oui. qui est finalement quelque part la base de la SAP.
Mais ça ne changera rien. Un sapeur reste un sapeur. Il trouve toujours une façon de s'habiller. Et ce qui était positif avec l'abacoste que Mobutu a imposé...
Donc l'abacoste, c'était le costume, en fait
Ça s'appelait abacoste, donc abat le costume. Donc c'est le modèle en fait qui a remplacé le costume cravate, c'est que on reconnaissait les Zaïrois, ils étaient vraiment reconnaissables. Et donc là en fait, on donne à des personnes qui sapent en fait une identité en plus, un côté vraiment reconnaissable, et ça ne les a pas empêchés de saper, ça ne les a pas empêchés de porter des vestes en cuir, de porter, enfin c'était vraiment une originalité et une manière de porter les vêtements qui était géniale parce qu'elle a influencé aussi beaucoup de stylistes occidentaux. Et il faut savoir aussi que malgré toutes les dérives de la SAP, ou grâce à toutes les dérives de la SAP, beaucoup de marques en fait ont pu tenir parce qu'il y avait des sapeurs.
Qu'est-ce que vous entendez comme dérives ?
Les dérives, c'est-à-dire... beaucoup de personnes, en fait, pour suivre ce mouvement, dépensaient énormément d'argent, parfois de l'argent dont ils avaient besoin pour vivre. Donc, ils mettaient ça dans les vêtements. C'est tout ça que j'appelle des dérives. Il y a eu aussi d'autres personnes qui n'avaient pas de cet argent-là et qui ont sombré dans le banditisme. Donc, ça aussi, ce sont des dérives. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont fait tenir, en fait, des stylistes qui aurait fermé sans les sapeurs, parce qu'aussi à ce moment-là ils n'étaient pas compris, etc. Et bon, il y a une chanson qui a changé énormément de choses pour la SAP, c'est Proclamation de Papa Wemba, où en fait c'est toujours dans ces espèces de joutes et où il dit en fait que oui, beaucoup, en gros, hein, déjà il cite des marques et il cite pas mal de marques, mais il explique aussi que beaucoup de gens sapent à Paris, à Bruxelles, etc., à Londres, mais que la proclamation, donc pour qu'on sache que tu es un sapeur, il faut venir à Kinshasa, et c'est à Kinshasa qu'on est proclamé sapeur. Et donc, cette chanson aussi a poussé beaucoup de gens, justement, beaucoup de personnes à retourner à Kinshasa pour aller dans des endroits précis, pour... être proclamé vraiment sapeur, donc ça veut dire être reconnu. Et c'est vrai qu'il y a quelque part cette mentalité au niveau des vêtements et au niveau de la musique aussi, est quand même restée. Parce que moi, j'entendais beaucoup, par exemple, Maître Gims, qui était numéro 1 en France, beaucoup de gens à Kinshasa disaient « Oui, il est numéro 1 là-bas, mais il ne sera proclamé que quand il fera un concert à Kinshasa ».
Avec sa chanson sapée comme jamais, j'imagine.
Avec toutes ses chansons,
toutes ces
mais
chansons.
En tout cas, voilà. Donc il y a quand même ce côté qui est de proclamation mm-hmm. qui est quand même resté. C'est pour ça que je dis, c'est au-delà, c'est une espèce de philosophie de vie qui, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, oui, ça va au-delà, ça va vraiment au-delà du vêtement, mais dans le côté positif, parce que bon, j'ai aussi cité des côtés négatifs, il y a ce côté fierté et quelque part, peu importe ce qui se passe, ne jamais se limiter au regard que l'autre porte sur nous. Et il y a eu effectivement, il y a eu beaucoup de liberté, j'ai envie de dire, qui est rentré en fait dans la manière dont les personnes d'origine congolaise ou congolaise s'habillent, parce que c'est vrai que c'était très quand même codifié. Il y a eu beaucoup de liberté, mais j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à ce côté entre guillemets élégance, parce qu'on se rend compte en fait que l'élégance jusqu'à aujourd'hui ouvre des portes. Il y a rien à faire, ça ouvre des portes et ça a ouvert beaucoup de portes à pas mal de gens.
C'est ça qu'est ce côté aussi de lutte de classe sociale. Finalement, la SAP joue avec ça aussi. En fait, peut-être plus même d'annihilation des différentes classes quelque part.
Oui, tout à fait.
Et alors, depuis le début, et avec tout ce que j'ai lu, il n'y a que des hommes.
Il y a des
la
femmes
aussi. La SAP, c'est pour les hommes. Non.
Alors, non. Il y a toujours eu... mais alors, musiciens, personnalités célèbres, il y a toujours des femmes. Il y a toujours eu des femmes, mais il y a toujours eu des femmes sapeuses, toujours eu. Mais en fait, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose en fait qui n'était pas revendiqué entre guillemets comme pour les hommes. Mais il y a toujours eu des femmes extrêmement bien habillées dans ces circuits-là. Il y a toujours eu des femmes d'une extrême élégance. Il y a toujours eu des femmes qui étaient d'ailleurs imitées, copiées, adulées. Et d'ailleurs, le 2 avril, il y aura une femme.
Sapeuse. On dit sapeuse alors ?
Il y aura une femme sapeuse, oui.
Voilà, parce que c'est vrai que dans ce qu'on voit, si on va voir sur Internet par exemple, on voit essentiellement des hommes, on a l'impression qu'en fait c'est un mouvement d'hommes. Et, mais donc voilà, c'était
non, il y a toujours eu ces
mais
femmes.
Elles sont invisibilisées quelque part.
Oui, elles sont invisibilisées parce qu'on ne le citait pas comme ça, mais il y avait des grandes lanceuses de tendance. Il y a eu, parmi les chanteuses, il y en a une particulièrement... Bon, pas vers la fin de sa vie, mais qui, quand je vois ses photos des années 80, mais c'est pas possible, Chalamoine, elle s'appelait, elle avait un style incroyable. Elle mettait des grosses vestes en cuir cloutées, mais il faut voir avec une élégance pas possible. Et donc, il y a toujours eu aussi toutes ces femmes autour des musiciens, quand on entend même les noms. Moi, j'en ai connu une particulièrement. Elle n'a pas voulu venir. J'espère qu'elle pourra entendre l'émission, qui a été chantée d'ailleurs par un chanteur qui s'appelle Kofi. Elle s'appelait Marie-Marthe. Elle s'appelle Marie-Marthe, qui était une femme et d'une élégance. La moitié de sa garde-robe, je bien. Elle était sapée. Enfin, il y en a eu pas mal comme ça. Hein, et ça, il y a toujours eu, et même des femmes d'hommes politiques qui étaient connues pour être extrêmement bien habillées.
Aujourd'hui, en 2026, comment est-ce que la SAP a évolué ? Comment elle existe encore aujourd'hui ?
Alors, elle a évolué, j'ai envie de dire qu'elle s'est internationalisée, en tout cas au niveau de l'Afrique. J'ai vu... en France, à Paris, un défilé de sapeurs français d'origine, si je peux dire ça comme ça, qui était fait par une femme. Donc c'est une femme qui organisait, et je ne sais plus dans quelle région, c'était pas sur Paris en tout cas. Et donc là, je me dis, la boucle est bouclée quelque part. Ça s'est vraiment beaucoup plus internationalisé que ce qu'on pensait. Parce que c'est vrai qu'on retrouve des sapeurs ou ce type de forme un petit peu partout. J'ai vu aussi des sapeurs dans des townships en Afrique du Sud. J'ai vu différentes vidéos. Et d'ailleurs, la sœur de Beyoncé avait tourné un clip, il me semble, en Afrique du Sud avec des sapeurs. Donc, c'est vraiment un mouvement parce que justement, il correspond à cette quête identitaire, à ce besoin en fait de justifier en fait d'une place, d'une présence, d'une dignité. Donc je crois que comme ça correspond et ça touche à quelque chose aussi profond, ça parle en fait à des personnes noires à travers le monde en fait. Et l'année dernière, donc le Met Gala qui parlait du dandisme noir, j'ai été étonnée du nombre de commentaires, de vidéos qui parlaient justement, qui revendiquaient, qui demandaient pourquoi il y avait eu si peu de place laissée à la SAP, alors que c'est un mouvement qu'on ne peut pas occulter dans le dandisme noir. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est internationalisé. Et puis de toute façon, voilà, les personnes d'origine congolaise voyagent à travers le monde, elles sont partout. Donc, elles ont voyagé avec leur musique et forcément avec avec la SAP. Et beaucoup de chanteurs, ben, on voit Damso. Donc, je pense qu'il y avait des grands courants, mais maintenant, il y a énormément de courants. Et on voit qu'il y a toujours ce lien entre la musique. On voit un Damso, ben, il a fait sa marque, etc. On voit le lien directement avec la mode. On voit une Luz Ndoyakuza, qui est aussi d'origine congolaise. On voit ce lien avec la SAP, en tout cas, on voit que le rapport aux vêtements est vraiment particulier. Il y a quelque chose, il y a une recherche, on exprime, et je pense que c'est beaucoup de chanteurs arrivent et on leur colle un styliste. Et je pense que les chanteurs congolais ou d'origine congolaise, ils arrivent et c'est eux qui collent leur styliste, je pense, parce que là, on peut pas venir les styler. Il y a quelque chose. Ils doivent absolument exprimer quelque chose. Ils doivent, parce que ça coule en fait pas dans le sang, ça coule dans l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui coule dans l'éducation, une sorte de survie par le vêtement.
Survie par le... C'est beau ça comme phrase quand même, la
ah bon
survie par le vêtement, je trouve ça beau moi. C'est poétique à la limite de survivre par le vêtement. Et après c'est revendicatif aussi. Et j'ai pu voir sur une vidéo YouTube d'une Congolaise de Brazza qui expliquait qu'il y avait un certain paradoxe et peut-être aussi une revendication aujourd'hui de que finalement la SAP puisse être réappropriée par des tissus africains et pas spécialement par les grandes marques comme Gucci, Dior ou Armani.
Je pense que ça l'est vraiment. Et d'ailleurs, la SAP Congo Brazza et Congo Kinshasa, il y a une base en fait au niveau. Même s'il y a un même cri, le cri est quand même différent parce que vu qu'il y avait plus de restrictions au Congo belge, le besoin aussi de crier cette humanité était différent. Donc, il y avait cette recherche, il y avait ce besoin de se montrer élégant, ce besoin de montrer qu'on est un humain, qu'on comprend les codes, qu'on sait en jouer, mais avec ce besoin plus fort et plus criant au niveau du Congo-Kinshasa, où il y avait une forme de survie. Et il y avait aussi un accès, en fait, à des choses qui sont parfois vitales, en fait, mm-hmm. qui passaient aussi par la manière dont on était habillé. Même s'il fallait quand même un document, mais le fait déjà d'être habillé, et on le voit aujourd'hui, on l'entend, la manière dont on est habillé, ben, on a plus ou moins de contrôle de police. Donc, on se rend compte que même encore aujourd'hui, pour certaines personnes, la SAP, la manière dont ils sont sapés peut encore jouer sur une arrestation, sur un contrôle, sur toute une série de choses. Et parfois, certains s'en servent aussi dans le mauvais sens. Mais il y a toujours ce jeu, en fait, j'ai envie de dire, entre la vie, la mort et la SAP, qui peut encore justifier, en fait, de la raison première pour laquelle ce mouvement a été créé ou est né.
On peut comprendre alors que certaines vont vont utiliser leur parfois faible revenu hein, pour la SAP et peut-être laisser sur le côté des besoins peut-être plus vitaux. Il y a cette explication, elle est tout à fait.
C'est la, oui, et je pense qu'on le vit, tous. Hein. Un jour, on est habillé d'une certaine manière et on sent en fait le respect changer. Donc, et quand on vit dans des pays où le regard n'est pas forcément a priori hein, positif sur une personne noire et qu'on a tout d'un coup un regard ou un intérêt ou une manière un peu plus respectueuse parce qu'on est habillé de telle ou telle façon, mais ça joue. Et savoir aussi que ben, certaines personnes ont vraiment des conditions de vie ultra difficiles, peu importe où ils vivent dans le monde, et que avoir de temps en temps un regard un peu différent, tout en sachant en fait que ces personnes-là ont une créativité de dingue, parce que elles savent très bien s'habiller, elles ont été jusqu'à inspirer des créateurs à l'international, et il y a tout ce jeu où j'ai envie de dire c'est un peu comme un cri de détresse et on cherche un peu ce regard humain, peu importe de quelle manière en fait. Mais je pense que ça vient vraiment de ce cri. Ça vient vraiment de ce cri et de ce besoin, en fait, d'être regardé avec humanité.
Avec humanité. La SAP reste politique et restera politique.
La SAP reste politique et restera politique. Même dans ses dérives, elle est politique.
Voilà. Rosie Sambois, merci beaucoup en tout cas d'être venue parler de la SAP, de nous expliquer en fait ce côté hyper politique, parce qu'en préparant cette émission, j'ai vu des archives de l'INA qui ne prenaient que le côté entre guillemets folklorique. Mm-hmm. Je me permets d'utiliser ce terme-là, oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'utilisaient, sans parler de ce côté d'humanité et également politique. Et je trouvais ça très intéressant et très important de pouvoir le remettre. On vous retrouve donc le 2 avril, c'est bien ça?
Oui.
Lors de la journée de la coopération, vous en parlerez avec d'autres invités, avec également un défilé, c'est bien ça aussi.
Oui. Ouais.
Voilà, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part
sur les réseaux? Alors sur Instagram, Rosie Sambois, sur Facebook, Rosie vous conseille, sur TikTok aussi, hashtag Rosie vous conseille, et donc voilà.
C'est déjà bien.
Et mercredi prochain, parce qu'en fait, je travaille sur des thématiques, donc éducation, mode, en lien avec l'Afrique. Et mercredi prochain, j'organise une projection donc sur la sandale en plastique, donc l'histoire de la sandale en plastique avec l'Afrique, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment un gros truc dans plein de pays africains, donc depuis bien avant les indépendances, avec la sandale en plastique. Donc, j'organise cette projection en présence du réalisateur qui s'appelle Florian Vallée à Tour et Taxi, donc à la Cinémathèque Maison de la Poste.
Ok.
Donc, c'est mercredi.
On va essayer que l'émission passera le jour même, mais ce n'est pas grave. Et puis, peut-être qu'on peut le retrouver. Et puis, je crois que je vais vous réinviter, du coup, pour parler de la sandale en plastique, parce que là, c'était quand même un des cauchemars dans ma jeunesse. La sandale en plastique. Alors, une émission sur la sandale en plastique, je serais ravie, en tout cas, de la faire avec vous. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venue dans nos studios. Et à bientôt, alors.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
La SAP, société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est pour toi, initié du look, que je prédonne ce hymne à l'élégance. Sur ton 31 de nuit comme de jour, chic par ta démarche chaloupée, frime par ton éloquence. Sans fin de ce qui est notre destin. D'abord génération anciens combattants, puis leur vin, des crâneurs. Puis ce fut l'instant des lutteurs. Le temps passe encore, les cracks arrivent un beau matin. Puis vint le jour de sapeur et griffe jusqu'au prochain.
Yeah.